Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Il connaît tous les dessous de la politique.
L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Cube Radio.
Bon jeudi quand même. Aujourd'hui à La Haut sur la colline, de retour en studio, on reçoit le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, qui répond aux multiples critiques des milieux écologistes et de l'opposition officielle à l'endroit du projet de loi 61. Oui, ce projet de loi très vaste qui vise la relance de l'économie du Québec. À ceux qui disent que la faune, la flore, la lutte au changement climatique sont en péril, il répond qu'il s'agit surtout d'accélérer la réalisation de projets d'intérêt public comme les écoles et les infrastructures de transport en commun. Mais d'abord, c'est jeudi, mais puisque La Haut sur la colline fait relâche demain, on en profite pour tenir notre dialogue des barbus avec Thomas Mulcahy.
C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas.
Il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu, mais tonton l'air de rien a de l'or dans les mains.
Bonjour Thomas Mulcahy, en direct de sa forêt du nord de Montréal.
Salut Antoine Robitaille, en direct de la forêt, du haut de la colline.
Oui, c'est ça, il manque d'arbres un peu. Alors, parlons du dépôt d'un projet de loi très important hier du gouvernement Legault sur la relance de l'économie. Ce projet de loi t'inquiète un petit peu?
Oui. Alors, tout le monde peut s'entendre que la relance de l'économie est archi importante. Là-dessus, on s'entend. Mais c'est un vieux truc de la droite que d'essayer de balayer notamment les règles environnementales, prétextant relance de l'économie. Et on ne peut pas se le permettre. En fait, il y avait un cadeau, il y avait quelque chose, un bout de lumière au bout du tunnel pour M. Legault, c'est que le Québec allait pouvoir, contre toute attente, rencontrer ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre en 2020 à cause du ralentissement. Donc, il ne faut pas perdre ça. En même temps, ce qu'on voit, c'est qu'ils veulent dire, ben, écoutez, là, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre, les règles environnementales, tout va être simplifié, il n'y aura pas d'analyse, mais oups là, il ne faut pas non plus tomber dans les ornières qui ont été dénoncées par le rapport de la commission Charbonneau. Ils vont s'en défendre du côté de la CAQ, mais moi, je m'inquiète comme quelqu'un qui a fait de l'administration publique et de la politique pendant 40 ans. Moi, quand j'entends un gouvernement dire « on balaye les règles et on va faire ça à notre tête », on regarde le résultat, très partisan. Il y a cette nouvelle manière de faire des résidences pour personnes âgées qu'ils ont annoncé. Ils vont en faire à peine 2 dans la grande région de Montréal, à Montréal même, et plus de 35 en dehors. Ça, c'est partisan. Ouais. Et ça ne correspond pas au foyer du problème qui était à Montréal. Donc, il va falloir qu'ils apprennent à gérer ça autrement qu'en disant qu'on n'a plus besoin de règles environnementales.
Eh oui. Donc, il y a un vrai dilemme là pour le gouvernement qui doit relancer l'économie, parce qu'on le sait, puis on va le savoir de plus en plus précisément. Le 19 juin, le ministre des Finances va déposer un nouvel état des finances publiques au Québec, parce qu'on sait bien que son budget du 10 mars vaut plus rien.
En fait, le budget du 10 mars, c'était intéressant. Ils annonçaient le 10. Ils annonçaient d'importantes réserves, des surplus et ainsi de suite. 3 jours plus tard, non seulement ça ne valait plus rien, mais ils étaient en train d'annoncer des déficits importants 72 heures plus tard. C'est dire à quel point, justement, ça a frappé fort, cette crise de la COVID-19.
Donc, on convient qu'il faut absolument relancer l'économie. Puis, quand un gouvernement veut aller vite, cependant, il peut y avoir toutes sortes de problèmes.
Oui, mais il peut y avoir toutes sortes d'opportunités. Mm-hmm. Et il faut se garder de toutes sortes d'opportunisme. Parce que ce discours contre les règles environnementales, pour avoir été ministre de l'Environnement pendant plusieurs années, je l'ai entendu.
Ben oui.
Mais c'est largement faux. C'est pas vrai que c'est tatillon. C'est pas vrai que les règles empêchent tout. Les règles visent à s'assurer que les générations futures puissent bénéficier d'un environnement sain tout comme nous.
Ben oui.
Et améliorer les choses. Alors, il va falloir qu'ils fassent très attention parce qu'ils vont être surveillés là-dessus. Puis il y a un brin d'arrogance qu'on commence à décoder dans leurs réponses, notamment en chambre de la part de la CAQ. Ils ne supportent pas la moindre critique. Vous vous souvenez quand ce scientifique en chef à Ottawa, Mona Nemer, a osé demander où est le plan pour le test, les tests de dépistage. Et là, elle s'est fait rabrouer tout de suite. Hey, gérante d'Estrade, Agnès Grudin, dans la presse hier, très important papier. Même critique de la part, le pushback de la part de la CAQ et de leurs acolytes. Hey, attention, les gérantes de stade, pas le droit de nous critiquer. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on approche de 5 000 morts? Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on approche de 4 000 morts dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées, et que c'est une crise, et que c'est une tragédie, et que ça aurait pu être évité s'ils avaient mieux fait? Radio-Canada a fait des bons papiers là-dessus. Notre collègue Richard Martineau commence à avoir un œil de plus en plus aiguisé pour les fautes dans la gestion. Mais la CAQ refuse toute mea culpa sur leur gestion
de la crise. Oui, mais il y a des critiques qui vont très loin. Je voyais hier sur Twitter un commentateur du Canada anglais qui dit « Ça fait des années que Québec, pour des raisons de nationalisme, refuse une direction pan-canadienne de la santé, de la gestion de la santé. Voilà ce que ça donne, le nationalisme. Est-ce que tu irais jusque-là? »
Non, c'est une niaiserie épouvantable de ce commentaire-là. Parce qu'aux années 60, il n'y a strictement rien qui a empêché les provinces, maîtres d'œuvre en matière de services de santé et services sociaux, de s'asseoir avec le fédéral. Il y a quelques éléments de responsabilité, notamment une pandémie qui traverse les frontières puis les aéroports, là où ils ont lamentablement échoué. Alors, si on va prendre responsabilité pour responsabilité, il va falloir regarder les deux. Mais il n'y a rien qui nous empêche aujourd'hui de se rasseoir et de commencer à revoir les normes nationales dans ce domaine-là aussi. Ce qui manque cruellement, c'est l'inspection, l'application des normes.
Mais qui dit normes nationales? Il me semble que c'est toujours refusé par le Québec, les normes nationales et par bien des provinces.
Il n'y a rien qui les empêche de s'asseoir et de dire qu'il va y avoir une norme et ça va être inspecté par chaque province. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ce qui est problématique, et M. Legault, le premier ministre Legault, avec raison, le souligne à chaque fois qu'il y a eu des velléités dans ce sens-là, a dit, aux années 60, le deal était 50-50. Là, on est rendu avec le fédéral qui dépense 23 % des dépenses en santé. Ça a été des coupures de l'époque. Jean Chrétien et Paul Martin. Notamment, j'ai eu à les gérer comme beaucoup d'autres personnes.
Ben oui.
Donc, il va falloir que si on veut discuter d'avoir une inspection et des normes, ça va être du ressort des provinces. Mais oui, ça peut faire l'objet d'une entente et ce serait même bien. Mais il va falloir que le fédéral retourne au deal de départ. Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, a eu le culot de se lamenter, dire c'est épouvantable, il faut regarder des poursuites criminelles, c'est épouvantable. Mais vous savez, l'année dernière, il a à peine fait des inspections, une demi-douzaine, si ma mémoire est bonne, dans les centres pour personnes âgées en Ontario. C'est là où le bât blesse. C'est pas une question de qui est le propriétaire, le public ou le privé. C'est une question de savoir, une fois qu'on a des règles, une fois qu'on a un permis, et si on soit public ou privé, on doit avoir un permis, mais il faut que le gouvernement assume sa responsabilité de les inspecter. Et c'est ça qu'on faisait pas, ni en Ontario, ni au Québec. On n'inspectait absolument pas assez. Et donc, on a connu des tragédies comme on est en train de vivre.
Mm-hmm. Donc, toi, quand tu étais au gouvernement, est-ce que c'était une priorité, les aînés? On pense à plusieurs élections où, par exemple, Jean Charest a dit « la santé, c'est la priorité ». Est-ce que tu as l'impression que c'était quand même oublié, les aînés, dans toute cette préoccupation-là pour la santé?
Les aînés sont souvent silencieux. Ils ont quelques associations qui existent, il y a quelques associations pour les malades et ainsi de suite, mais d'une manière générale, ce sont des gens plutôt dociles et qui ne font pas élever leur voix. Les tragédies de gestion qu'on est en train de reconnaître et de mesurer aujourd'hui sont le fruit de décennies de négligence de la part d'une succession de gouvernements.
C'est ça.
Ça appartient pas à la CAQ, ça appartient pas aux libéraux, ça appartient pas aux péquistes. C'est l'ensemble de l'œuvre. Mais les parents pauvres sont toujours les mêmes choses avec les gouvernements de droite. On vient de le mentionner. Le gouvernement de droite de Doug Ford, il a coupé des inspections. Il a coupé là-dedans parce que c'est pas visible, c'est pas un service direct au public. Mais ça l'est au public est principalement intéressé, les aînés. M. Legault a coupé dans la santé publique, qui a toujours été le parent pauvre, mais on voit les résultats.
Quand il était ministre, mais pas quand il était premier ministre.
Non, mais la santé publique n'a jamais eu les sommes nécessaires pour faire son travail, puis on est en train de le vivre. Et que ce soit le fédéral qui a complètement laissé tomber les aéroports et les frontières, à tel point que la ville de Montréal a commencé à dispatcher des gens pour inspecter à l'aéroport d'Orval. John Horgan, le premier ministre de Colombie-Britannique, s'est chamaillé avec Ottawa parce que lui-même, il a envoyé du monde pour arrêter les gens à la frontière, à l'aéroport, les alerter, les sommer de s'isoler. Quand tout ça, ça va être écrit dans un an et demi ou deux ans, on va regarder la faute du fédéral au niveau des aéroports et des frontières, puis il n'y aura pas d'excuses. Puis on va regarder la faute du Québec du côté des CHSLD, notamment parce qu'il n'y avait pas d'équipement pour les employés qui étaient mal formés, souvent des nouveaux arrivants, qui paniquaient à l'idée de perdre leur job et de se faire déporter. Tout ça, c'est en train de sortir. Il y avait un excellent reportage là-dessus de Radio-Canada, et Manon Massé a repris ça à l'Assemblée nationale d'une manière très importante, avec le bon ton. C'est pas, on commence pas à crier à tue-tête avec ça, mais on regarde le gouvernement de la CAQ et on dit qu'il y a eu des problèmes de gestion. Ça n'a pas été bien géré, contrairement à la prétention de M. Legault. Pour l'instant, ils sont en train de cercler le wagon. Ils disent non, vous n'avez pas le droit de critiquer gérant d'estrade et ainsi de suite. Mais l'analyse réelle s'en vient et la reconnaissance des défauts va se faire et ça va être très dur.
Est-ce qu'on peut donner quand même déjà des bons points au gouvernement? Est-ce que c'est uniquement négatif?
Le gouvernement de la CAQ a fait un travail nec plus ultra de communication politique et de relations publiques. Et c'est ce qui les a permis de surfer pour les premières 8 semaines, 9 semaines de la crise. Ils avaient une équipe sur le stage qui parlait, puis il y a des petits détails qui trahissent les problèmes de base. À chaque fois qu'il disait deux mètres de distance obligatoire, ça, M. Legault disait toujours ça, c'est 6 pieds pour des personnes de mon âge, 6 pieds de distance. On n'avait qu'à regarder le stage, Antoine, qu'ils étaient à peine à 2 pieds, oublie les 2 mètres. Oui. Alors, la question a été posée à plusieurs reprises, mais comment ce serait que vous ne le respectez pas? Ils avaient toujours une excuse. Ah, ben, on travaille beaucoup ensemble. Ah, ben, on est souvent dans les mêmes pièces et ainsi de suite. On voit les photos. Il y avait un bon papier dans l'actualité. Et on voit les photos avec Castonguay. On voit les photos. Ils étaient tous en conciliabule alors qu'ils devaient avoir de la distanciation sociale. Ils étaient les uns collés aux autres. Donc, le public décode juste. Fais ce que je. Tu es en train de me dire de faire ce que tu dis, mais pas ce que tu fais. Mm-hmm. Quand Justin Trudeau s'est permis d'aller allègrement contre la loi québécoise, c'était un décret ministériel 2020-013. Le décret disait on n'a pas le droit d'aller à Ottawa vers notre chalet dans l'Outaouais. Il l'a fait. Quand on lui a posé, il a dit je vous avais dit que je voulais aller voir ma famille. Mais c'est pas ça la question. La prochaine personne qui approchait un policier qui essaie de lui dire hey, dites-moi pas que j'ai pas le droit d'aller à mon chalet. Trudeau vient de le faire. Mm-hmm. Le public décode ça. Quand Doug Ford est allé à son chalet, quand il a reçu ses filles contre toutes les règles, le public décode juste ces règles-là, c'est de la foutaise. Mm-hmm. Parce que les gens responsables les obéissent pas. Donc, ça va aussi faire partie de l'analyse qui est faite.
Oh, je sens déjà j'entends déjà les courriels rentrer, Tom. Des auditeurs du Dialogue des Barbus vont dire « Mais Mulcair, il est à son chalet, lui? »
Ben, j'ai jamais bougé. c'est où nous sommes depuis le début. Ce que je n'avais pas le droit de faire, c'est de retourner à Montréal et de revenir pendant cette interdiction-là. mais merci de poser la question, parce que nous, on commence notre 13e semaine ici.
Ah oui?
Donc, c'est ça le problème. Il y avait une règle qui, pendant plusieurs semaines, disait qu'on n'avait pas le droit de passer d'Ottawa, de l'Ontario, vers les chalets dans le Nord. Puis après, on a même interdit entre certains coins du Québec, donc certaines municipalités régionales de comté, les MRC. Puis il y avait des policiers qui veillaient à appliquer ça. Mais ça a été levé à l'interne maintenant pour la plupart. Mais il y a encore des régions où ils sont assez inquiets des mouvements des gens.
Ah oui, moi je trouve qu'en Gaspésie notamment, là, j'ai interviewé la députée Mégane Perry-Mélançon là-dessus, puis je sentais vraiment un dilemme, un tiraillement entre la nécessité d'accueillir des gens pour l'industrie touristique, mais en même temps la peur des pestiférés du reste du Québec.
Oui, et il faut les écouter, parce que c'est une crainte valable. Puis on n'a qu'à écouter, parce que quand je fais la télé anglophone, souvent au tout début, quand le Québec avait commencé à interdire les mouvements de l'Ontario vers le Québec, il y avait plus une chemise qui n'a pas été déchirée. Oh, Québec, Mais j'étais capable de répondre, vous savez quoi? Le Québec a suivi de 4 jours le Nouveau-Brunswick qui a fermé sa frontière avec le Québec. Et qui peut se plaindre de la règle quand on sait qu'au Nouveau-Brunswick, la seule éclosion, puis c'est vous qui m'en avez parlé la semaine dernière, puis j'ai pu le voir après. Il y a eu un cas, c'est un médecin québécois qui travaillait au Nouveau-Brunswick, qui est revenu au Québec, qui a eu la COVID-19, puis est retourné au Nouveau-Brunswick. Oui. C'était le premier cas, et il ne s'est pas isolé. Et c'était la source d'une éclosion. Donc c'est tragique ce qu'on est en train de vivre.
Merci infiniment pour ce dialogue des barbus du jeudi, exceptionnellement, mon cher Thomas.
Ben, j'ai bien hâte à la prochaine, Antoine.
Oui, on se reparle. Il nous en reste deux, je crois. Alors, avant les grandes vacances. Merci, puis porte-toi bien.
À bientôt, toi aussi, Thomas.
Là-haut sur la colline.
Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
Au bout du fil, il y a Benoît Charrette. Bonjour.
Bonjour, M. Robitaille.
Ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Il y a eu des réactions vraiment violentes là, en Chambre ce matin contre le projet de loi 61 qui vise à accélérer 202 projets d'infrastructures dans le cadre de la relance après la pandémie. Benoît Charrette, c'est terrible là, tout ce qu'on dit de ce projet de loi-là. On dit qu'on a l'impression que le gouvernement utilise la crise actuelle comme excuse pour assouplir les règles environnementales. Ça, c'est Nature Québec. Mais ce matin, quand je disais violente, là, Marie Montpetit, votre critique libérale, parlait de foutaise. Elle vous dénonce, elle dit « Vous avez complètement capitulé. » Qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Vous avez commencé à répondre en chambre, mais est-ce qu'il semble y avoir un réel danger pour l'environnement?
En fait, je respecte le travail de ma collègue. Je dirais seulement que je la connais depuis plusieurs années. Je connais son style. Mais ce qui est malheureux, c'est que ses propos ne sont pas appuyés par aucun des aspects du projet de loi en question. Moi, j'ai eu l'occasion de le réitérer et le projet de loi le confirme. Il n'y a aucune atteinte aux normes environnementales, aucune atteinte aux seuils environnementaux. Le rôle du BAP reste tel quel. Tout ce qui est normes et exigences environnementales, tout ce qui est quantité de contaminants actuellement interdits, tout ça est maintenu. Tout ce qui est protection des milieux humides, c'est maintenu au niveau de leurs autorisations pour les travaux. Tout le régime de sanctions, de contrôle et d'inspection est maintenu. Donc, je comprends le rôle de l'opposition, je le respecte, mais ce que je souhaiterais surtout qu'ils retiennent, et je vais le répéter à chaque fois que l'occasion se présente, tous les projets qui sont visés par ce projet de loi-là sont des projets d'intérêt public. On parle d'écoles, on parle d'hôpitaux, on parle de maisons des aînés. Donc, il n'y a pas beaucoup de Québécois qui ne priorisent pas ces éléments de notre quotidien qui font une différence. Et je faisais un parallèle avec les principes de développement durable. Ce que dit l'ONU sur le développement durable, c'est faut protéger la santé, faut protéger l'éducation et favoriser un développement économique responsable. Tous les projets dans la liste incluse en annexe au projet de loi sont des projets de développement durable. Donc, je relative en tout respect avec le sourire les propos qui se sont voulus peut-être exagérément sévères de ma collègue.
Oui, mais parlons de certains détails du projet de loi, comme le système de compensation financière pour les impacts sur la faune et la flore. Est-ce que c'est un droit de détruire la faune et la flore?
Absolument. Qu'on s'achète? Ce qui m'a amusé dans cette critique-là, il y a quelques années à peine, c'est tout récent, ça remonte au dernier gouvernement libéral. Il y a cette procédure-là qui a été introduite au niveau des milieux humides. Donc, il y a eu une loi, il y a eu un règlement d'application aussi. On reprend essentiellement le même modèle, c'est-à-dire lorsqu'il y a une atteinte à un milieu, il doit y avoir une compensation financière. Et cette compensation financière, elle sert à quoi? Elle sert à réhabiliter un autre milieu ou en créer de nouveau. Donc, on reprend un modèle qui était pourtant défendu par les libéraux et aujourd'hui, le juge inconcevable. C'est là où, malheureusement, et c'est le rôle de chacun, et je le reconnais pour avoir été dans l'opposition longtemps, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de nuances dans la critique et surtout un oubli fondamental, c'est qu'on retient leur propre modèle.
Mais c'est pas parce qu'ils proposaient ça, eux, et qui maintenant le dénoncent, que c'est acceptable pour autant. Est-ce que...
Tout à fait, mais je vous rappellerai par contre qu'à l'époque, c'était adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. La CAQ était à ce moment-là dans l'opposition et ce sont des modalités qui avaient été appuyées par l'ensemble des formations politiques. Je m'en souviens très bien pour y avoir été à ce moment-là. Donc, on ne reproduit pas un modèle différent, on ne casse aucun moule. On revient avec un modèle qui a été prouvé. D'ailleurs, pour vous dire à tel point, il y a quelques semaines, on a confirmé les sommes amassées au niveau des milieux humides. On parle essentiellement de 30 millions jusqu'à ce moment. Donc, on parle de sommes colossales qui permettront la réalisation de projets concrets de réhabilitation de milieux humides. Donc, un modèle...
En clair, là, ça veut dire qu'on pourrait détruire un habitat, mais au moins avec la garantie qu'on en construise un ailleurs ou qu'on en protège un ailleurs, c'est ça?
Je dois vous avouer, j'aime peut-être un petit peu moins le terme « détruire », parce que « détruire » ne laisse plus place à aucun résidu, en quelque sorte. Il faut savoir que MFFP déjà qualifie la valeur des habitats naturels. Donc, c'est bien certain qu'on n'ira pas de façon aveugle vers un habitat à valeur importante s'il n'y a pas d'autres alternatives. Donc, c'est déjà une qualification qui est faite. Mais oui, s'il y a atteinte, j'aime mieux atteindre que détruire, parce que atteindre, c'est pas une destruction là, qui est totale.
C'est pas irrémédiable.
Effectivement. Donc, si on vient atteindre un milieu, on a la possibilité de le réhabiliter et au niveau des espèces menacées, on n'y est pas. Alors, c'est pas un projet de loi qui vise à s'en prendre aux espèces menacées, là, au contraire. Donc, c'est pour ça que je le répète, c'est important. Aucun seuil, aucune norme environnementale est revue à la baisse à travers l'introduction de ce projet de loi-là. Ce qu'on vient faire essentiellement, c'est pas perturber l'environnement, c'est changer nos façons de faire au niveau des procédures. C'est beaucoup là que le bas blesse. C'est pas uniquement l'environnement. Le premier ministre disait à juste titre ce matin, on parle et on promet la ligne bleue à Montréal depuis le début des années 80.
Oui.
On a priorisé ce projet-là. Ce que l'on sait...
Mais la ligne bleue, est-ce que c'est parce que à cause de raisons environnementales qu'elle a été aussi repoussée souvent?
Non, en fait, depuis qu'on l'a remis dans le calendrier, c'est pour ça que le premier ministre mentionnait ce matin, on pourrait deux années encore à ne rien avancer. C'est qu'une série de contestations sur les expropriations qui sont en cours.
Ah oui.
Et c'est là où le projet de loi intervient. Donc, tout ne concerne pas l'environnement. Donc, quand on parle de délai, dans ce cas-ci en particulier, on parle de délai juridique. Donc, c'est un projet de loi réellement, que ce soit en matière d'environnement ou autre, qui vient modifier les façons de faire, mais sans affecter les principes.
C'est vrai que la ligne bleue, ça fait longtemps qu'on l'attend.
Littéralement.
Si on peut accélérer un petit peu, effectivement, ça peut avoir du bon, mais à quel prix? On dirait que c'est quoi? C'est les droits individuels en matière d'expropriation qui sont exacerbés aujourd'hui, qui empêchent les projets collectifs ou quoi?
Oui, ça peut être le cas dans le cas de projets de transport collectif, mais ce qui est d'autant plus important de réitérer pour rassurer la population, On ne remet pas en question les droits financiers liés à l'expropriation. Ça, il y a un régime, il y a une loi qui est très, très claire à ce niveau-là, qui est entièrement maintenue. Ce qui est modifié, c'est le droit de contester sa propre expropriation parce que dans certains cas, ça peut engendrer des délais là, d'une année, deux ans, trois ans, on parle même de quatre ans. Donc, on n'est pas du tout dans l'environnement lorsqu'on est okay. à parler de ces délais-là. Mais ce sont tous ces délais supplémentaires que l'on souhaite diminuer le plus possible pour permettre, et encore une fois, je le dis, pour permettre la réalisation de projets d'intérêt public. À ma collègue Marie Montpetit, et ça aussi, c'est de la politique, mais ça m'a un petit peu déçu du docteur Barrette ce matin. Il disait que c'était un projet de loi essentiellement partisan parce que les projets étaient dans les circonscriptions caquistes.
Il parlait des maisons des aînés, notamment?
Oui, monsieur, l'exercice est tout simplement faux. La très, très, très grande majorité des projets sont sur l'île de Montréal. On parle de plusieurs dizaines de projets qui sont sur l'île de Montréal. Comme vous le savez, c'est pas là où on a la plus grande représentation parmi nos députés. Et ce matin, la collègue Marie Montpetit qui m'interpellait sur le projet de loi, je lui nommais que quelques exemples de projets qui étaient dans sa circonscription.
Oui.
Donc, on parle réellement de projets d'intérêt public. Il n'y a aucune visée partisane à ce niveau-là. Il n'y a personne qui va reprocher au gouvernement de vouloir construire de nouvelles écoles compte tenu du manque d'écoles et de la vétusté, voilà, j'ai de la misère à le prononcer, des écoles qui sont en place. Donc, le comté même de celles qui critiquaient le projet de loi de façon un petit peu trop sentie, je le dirais comme ça, est un des principaux. C'est un des bénéficiaires du projet de loi.
Vous deviez.
Et on a établi une liste, on n'a jamais regardé c'est dans le comté qui, là. Et comme je vous dis, la majorité des projets est sur l'île de Montréal, l'endroit au Québec où on a le moins de comtés, mais on y va selon les besoins établis. Et c'est reconnu que faut moderniser nos hôpitaux, faut moderniser nos urgences, faut construire de nouvelles écoles, faut construire de nouveaux CHSLD.
Vous deviez déposer un plan de lutte au changement climatique ce printemps. Là, on comprend qu'avec la pandémie, ça a été remis, mais est-ce qu'il est prêt?
Ben, en fait, je dirais jamais que la pandémie a été une bonne chose, mais ce que ce délai-là nous a permis, c'est de l'adapter aux conséquences, justement, de la pandémie. Donc, c'est un document qui est encore à ce jour peaufiné. Je peux vous confirmer, sinon vous annoncer qu'il sera présenté cet automne. Et la bonne nouvelle à travers ça, c'est qu'avec ce délai-là, on sera en mesure de présenter et la politique cadre et le plan de mise en œuvre en même temps. Mm-hmm. Ça va faciliter grandement la compréhension de l'exercice parce qu'au départ, on devait présenter la politique cadre fin mars. La date était retenue, la salle était réservée. Bref, on était prêts. Mais fallait attendre à l'automne pour présenter le plan de mise en œuvre. Et souvent, c'est difficile de distinguer ces deux exercices-là. Donc, les deux documents seront produits et déposés, présentés simultanément, ce qui permettra de comprendre l'effort auquel est invitée la population du Québec.
Une dernière, en terminant, vous avez travaillé dans un CHSLD. Là, ça, vous l'avez fait de façon incognito, évidemment, comme bien du monde derrière un masque et une visière. Mais qu'avez-vous appris de votre expérience comme ministre préposé aux bénéficiaires?
Déterminant, c'est échelonné sur quelques semaines dans un milieu qui m'était complètement inconnu. Donc, expérience, enrichissante. Et je vous dirais que j'ai pris la mesure. Moi, j'ai commencé mon engagement avant le critiqueur du premier ministre pour à peu près à la même période, alors que le nombre d'effectifs était à son plus bas. Donc, rapidement, j'ai eu à me mettre à la tâche d'un préposé, c'est-à-dire autant les soins d'hygiène, les soins d'alimentation, les soins d'hydratation. Donc, ça a été un cours en accéléré. Je pense ou je souhaite plutôt avoir pu faire une petite différence, mais clairement, c'est un milieu qui a besoin d'appui. Et très, très heureux de voir là, qu'au cours des derniers jours, de nombreux Québécois, Québécoises ont ont démontré un intérêt pour s'y investir, parce que clairement la tâche n'est pas simple, elle n'est pas facile, mais elle doit être faite. Et quand elle ne l'est pas, ben c'est la santé, c'est la sécurité de nos aînés qui est en cause. Donc très heureux de voir les développements des derniers jours à ce niveau-là.
Très bien, merci beaucoup, Benoît Charrette, en direct du Parlement, là, pas très loin de moi. On n'a pas le droit de vous recevoir en studio.
Voilà, donc, mais toujours un plaisir.
Au
une
plaisir.
Bonne fin de journée.
Merci. Benoît Charrette est ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques du gouvernement Legault. Vous êtes à l'écoute de Là-haut sur la colline.
Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
Et maintenant, autrement écouté.